Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Bonsoir à toutes et à tous, c'est Simon, il est 18h sur Radio Campus, bienvenue à bord du pédalo. Et oui, le sous-marin s'est terminé pour cette année, place désormais au pédalo pour bien démarrer cette saison estivale. Au programme de cette émission, zoom sur En Cadence, comme son nom l'indique, c'est une association de danse basée à Saint-Barthélemy d'Anjou et qui présente ce 6 juin son spectacle de fin d'année. Pour en savoir plus et pour connaître au mieux la structure, je reçois Elsa Pinon. Et puis en deuxième partie d'émission, vous retrouvez un reportage de la série Santé des sols en collaboration avec La Frappe. Notre collègue Marion Bastide nous fait découvrir l'Atlas de la biodiversité intercommunale. Voilà, vous savez tout de ce pédalo du lundi 1er juin, alors ajustez votre gilet de sauvetage parce que le pédalo part à l'abordage.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Ce samedi 6 juin, l'association En Cadence propose son spectacle de fin d'année. En Cadence, comme son nom l'indique, c'est une association de danse présente à Saint-Barthélemy d'Anjou. Alors pour en savoir plus sur ce spectacle et pour découvrir la structure, on reçoit Elsa Pinon. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, tu es membre de l'association En Cadence. Alors je le disais, ce samedi, En Cadence présente un spectacle, ce samedi 6 juin. Un thème a été choisi, c'est le tourbillon des émotions. Est-ce qu'on peut un peu expliquer ce choix ?
Alors en effet, le thème c'est le tourbillon des émotions cette année, donc c'est nos professeurs de danse, elles sont trois dans la structure, et elles choisissent ensemble le thème en fonction notamment des groupes et des chorégraphies prévues, parce qu'il faut s'adapter aux groupes qui vont de 4 ans jusqu'aux adultes, donc il faut pouvoir avoir assez de matière pour respecter le thème.
Oui, c'est un thème, donc la volonté de choisir un thème qui est finalement assez large, c'est ça ?
C'est fait exprès, ouais.
Qu'est-ce qu'on entend par tourbillon des émotions ? Faut s'attendre à quoi ?
C'est globalement la rencontre avec la totalité des émotions qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours. Donc le mot tourbillon permet de comprendre qu'il y en a beaucoup, beaucoup, parce qu'on présente 19 chorégraphies, donc 19 émotions différentes.
Alors c'est une bonne occasion de rappeler que la danse, justement, c'est avant tout les émotions, et que toutes ces émotions, positives comme négatives, elles cohabitent un peu les unes avec les autres.
Oui, c'est ça, il y aura un lien entre chaque chorégraphie et donc chaque émotion, qui permet de voir que toutes les émotions ont un lien entre elles.
Un lien, ça veut dire que, en gros, si on a vu le début, enfin pour un peu tout comprendre, il faut avoir un peu tout vu dans son ensemble, c'est ça ? C'est des chorégraphies qui marchent indépendamment ou quand même c'est bien de tout voir dans l'ensemble ?
Elles marchent plutôt indépendamment. Après, il y a une suite logique entre toutes les émotions. Pour pas passer de la joie à la colère, il y a forcément une suite logique.
Une transition un peu douce, on peut dire.
C'est ça, une transition.
Alors au total, tu le disais, donc c'est 19 chorégraphies qui sont présentées, des groupes d'âge aussi différents, des styles différents, on imagine.
Oui.
Par quelles émotions est-ce qu'on va passer ?
Alors, des émotions, il y a la joie, la colère, la tristesse, il y a la solitude, et après il y a beaucoup d'émotions plus diverses, mais globalement c'est plutôt ces thèmes-là.
Ouais, l'idée c'est de montrer aussi le spectre le plus large possible.
Oui, c'est ça.
Est-ce qu'il y a certains styles de danse qui sont plus adaptés à certaines émotions ? Parce qu'on aura l'occasion de revenir plus tard sur les différents styles que propose l'association, mais est-ce que selon l'émotion, il y a un type de danse plus adapté ou au contraire, toutes les danses s'adaptent à toutes les émotions ?
Alors, la quasi-totalité des danses, je dirais, s'adapte à peu près à toutes les émotions, mais on a quand même, dans l'association, on a le hip-hop. Et le hip-hop, il a plus tendance à être joyeux, à être motivant, donc on va moins mettre d'émotions tristes pour le hip-hop.
Qu'est-ce qui fait que dans le hip-hop, il y a ce côté joyeux ? C'est quoi ? C'est le rythme ?
Le rythme, la musique, qui est plutôt entraînant. Donc, mettre une musique plutôt triste ou colérique pour du hip-hop, c'est un peu délicat.
Et à l'inverse, est-ce qu'il y a d'autres danses qui vont être plus adapté à, comme tu dis, des thématiques plus tristes, plus mélancoliques ?
Non, parce que nos autres styles, c'est le jazz et le contemporain. Et là, on peut vraiment toucher à tout. Le contemporain est plus doux, mais on peut quand même toucher à la joie, on peut toucher vraiment à tout.
Mais donc globalement, même s'il y a un spectre large d'émotions, on sent qu'on est quand même plus sur des émotions joyeuses ?
Non, pas tellement. Niveau hip-hop, c'est plutôt joyeux. Après, jazz et contemporain, pour les petits, on s'adapte, donc on essaye de faire plutôt des choses joyeuses. Après, pour les plus grands, ça part vraiment plus loin et c'est pas forcément la joie.
Et comment est-ce que la danse parvient justement à transmettre ces émotions? Quels sont les ingrédients quand on regarde la danse qui nous permettent de justement ressentir cette joie, cette colère? On imagine la musique qui accompagne, mais dans les mouvements en eux-mêmes, qu'est-ce qui amène ça?
Alors, les mouvements sont adaptés à la musique déjà par rapport au rythme. En général, le rythme fait un peu la chorégraphie. Ça peut entraîner le public. Et puis, si la chorégraphie est bien faite par les élèves, il y a un vrai esprit de groupe et c'est ça qui peut toucher le public.
Ce qui peut toucher, c'est justement de voir cette symbiose, cette solidarité aussi entre tous les danseurs et danseuses.
Ça joue. Oui.
Est-ce que toutes les émotions, elles sont aussi faciles à appréhender en fonction de l'âge des personnes qui dansent? Parce que sur scène, on va avoir un éventail d'âge quand même assez large. Est-ce que c'est aussi facile d'apprendre à des danseurs ou danseuses de transmettre une émotion quand ils ont, par exemple, 5-6 ans ou quand ils en ont 35-40?
Non, pas du tout. Les adultes ou les ados un peu plus âgés sont beaucoup plus propices à ressentir les émotions et à les connaître, donc à pouvoir les transmettre sur scène. Les enfants ne connaissent pas toute la totalité des émotions, c'est pour ça qu'on leur donne les émotions les plus connues. Et puis même pour eux, c'est difficile à transmettre parce qu'ils sont tellement heureux d'être sur scène que finalement... la seule émotion qu'ils ressentent, c'est la joie d'être sur scène, en fait.
Alors, tu parles des émotions les plus connues pour les enfants, ça, c'est quoi comme genre d'émotion?
Les émotions les plus globales, donc la joie, la tristesse, la colère, ce qu'ils connaissent à 4-5 ans, c'est pas énorme par rapport à ce qu'on peut connaître en étant adulte, quoi.
Et donc, j'imagine que les profs s'adaptent, justement, tu le disais, souvent ils sont contents d'être là, donc peut-être plus s'attendre à ce que les plus jeunes soient dans des trucs plus joyeux.
Oui, tout le temps. En effet, les jeunes sont très joyeux sur scène, donc les profs, elles adaptent les chorégraphies à ce que ce soit des musiques rythmées plutôt positivement.
Et comment est-ce qu'on arrive à permettre aux danseurs et danseuses de justement s'approprier ces émotions? Parce que même quand on est adulte, on peut être content d'être sur scène, mais si on nous demande d'interpréter quelque chose de plus triste, comment est-ce qu'on, au-delà d'apprendre à danser, apprendre à transmettre les émotions?
Bah, je dirais qu'on apprend aussi un peu le rôle d'acteur, le jeu d'acteur, de jouer l'émotion, de respecter la musicalité, qui fait que le respect de l'émotion des élèves plus la musicalité fait que ça respecte l'émotion sur scène et ça la transmet au public.
Et donc le public, est-ce que lui aussi, il a son... est-ce que c'est un facilitateur pour permettre aux danseurs et danseuses d'avoir cette émotion? Est-ce que le fait de se dire on est en face de gens qui vont ressentir ce qu'on va danser peut aussi aider à transmettre ces émotions?
Oui, notre objectif, c'est de faire ressentir au public l'émotion. Donc c'est pour ça qu'on essaye de jouer un maximum le rôle pour pouvoir transmettre au public et qu'ils comprennent l'émotion qu'on veut transmettre.
Et comment on fait justement pour que... quand on s'entraîne, enfin, j'imagine que forcément il n'y a pas de public, donc on ne le vit pas pareil. Comment on arrive à se préparer à à véhiculer des émotions devant des gens quand toute l'année en fait on danse entre soi dans un cours?
Bah ça, je dirais que c'est plutôt grâce à nos professeurs. Elles nous préparent, elles voient si on est dans l'émotion ou pas, donc elles savent nous le dire si vraiment il faut qu'on revoie l'émotion qu'on arrive à transmettre ou pas. Et après, sur scène, le jeu est différent. On arrive à être différente sur scène quand court arriver à un certain âge.
Et puis dans les groupes, j'imagine aussi qu'il y a une différence d'expérience. Donc peut-être aussi, c'est peut-être une bonne manière de parler d'émotion, justement. C'est une bonne manière de permettre... d'aider à se rendre solidaires les uns avec les autres, les unes avec les autres, pour que les plus expérimentés tirent vers le haut les moins expérimentés.
Oui, ça c'est le but. Dans les groupes, il y a toujours des différences de niveau. Il y a toujours des élèves qui ont commencé la danse plus tôt que certaines. Donc les plus âgés dans l'association ou dans le domaine de la danse tirent vers le haut en général les nouvelles arrivées pour qu'elles puissent... réussir au mieux leur chorégraphie.
On reste avec toi, Elsa Pinon. Dans quelques instants, on va parler plus en détail de ce que fait l'association En Cadence le reste de l'année. Mais avant, on fait une pause musicale. On écoute Angie Miles. C'est un auteur-compositeur-interprète folk américain. Il nous vient de Boston. Le titre s'appelle You're Free to Go et c'est sorti en mars dernier dans l'album éponyme. A tout de suite dans le pédalo.
There's something like a new being growing on me. Through the summer, through the morning, Did you wake me? Did you heal me by the river? Should you call me when you need me? I'll deliver. If that's enough, that's enough, that's enough, that's enough. Why did I begin, I begin, I begin to cry?
Pédalo sur Radio Campus Angers.
C'était You're Free to Go d'Angie Mile. Vous êtes toujours sur Radio Campus à l'écoute du Pédalo et aujourd'hui on est avec Elsa Pinon de l'association En Cadence qui présente son spectacle de fin d'année ce samedi au THV à Saint-Barthélemy d'Anjou. Alors au-delà du spectacle dont on a parlé, l'association En Cadence propose tout au long de l'année des cours de danse dès 4 ans. Globalement ce qu'on remarque c'est une diversité dans les styles proposés, du hip-hop, du contemporain, du jazz. L'idée c'est d'attirer tout type de public.
Oui, en effet, tous les styles, ça permet d'attirer un nombre d'élèves plus important et d'attirer plus de diversité au niveau des styles de danse.
Et les personnes qui vont vers ces trois styles, est-ce que souvent ils sont plus attirés par un style en particulier ou ils viennent découvrir, ils viennent tenter des choses différentes ?
Alors au départ, ils commencent par, pour les plus jeunes, ils commencent par le cours d'éveil et d'initiation et c'est après ça qu'ils choisissent leur style de danse. Donc en général, ils essayent les trois styles, sauf si vraiment ils ont déjà leurs idées en tête en fonction de ce qu'ils ont vu au spectacle, par exemple. Et en fonction de ça, après, ils partent sur un style de danse. Et ça arrive à certaines élèves aussi de changer de style ou de faire plusieurs styles en même temps. C'est vraiment varié.
Oui, il y a vraiment des ponts, finalement, entre chacun de ces styles.
Oui.
Et d'ailleurs, justement, le 10 juin prochain, vous proposez des cours d'essai pour les 4-7 ans. C'est important d'avoir toujours ce genre de temps pour intégrer au mieux celles et ceux qui veulent découvrir la danse vous...
Oui, c'est très important. Ça permet aussi de rencontrer la professeure, de voir si ça match aussi avec les élèves, parce que même s'il y a un style de danse, le style de chaque professeur est différent. Donc ça permet à l'élève de découvrir le style que propose la professeure et de valider ou non si cela lui plaît.
Alors on parle beaucoup des jeunes, mais on imagine qu'on peut venir s'inscrire à n'importe quel âge. C'est quoi les genres de profils parmi les personnes qui viennent chez vous ? Qu'est-ce qu'ils recherchent ? Il ou elle recherche
Ils recherchent notamment un loisir, un sport pour venir une fois par semaine ou parfois plus faire son sport et s'amuser. Après, les personnes qui viennent plus tard, je dirais, ont déjà en général pratiqué de la danse et savent déjà pourquoi ils viennent, parce qu'ils aiment la danse.
Il y a des valeurs en particulier que vous souhaitez transmettre ou apporter. Qu'est-ce qu'on retrouve de spécial chez En Cadence qu'on ne retrouverait pas forcément ailleurs, au-delà des cours de danse en eux-mêmes?
Alors, on partage pas mal de choses, notamment au spectacle. Nos professeurs, elles font en sorte qu'il y ait de la cohésion dans les groupes et aussi entre les groupes. Ça nous arrive de faire des chorégraphies communes avec des groupes de plus jeunes ou des groupes de plus âgés. Et ça permet d'avoir de la cohésion au sein de l'association.
Alors, tout au long de l'année, vous proposez des stages avec des professionnels. En mars dernier, par exemple, c'était avec Emma Grimandi. Le but de ces stages, c'est quoi? C'est d'aller au-delà de ce qui est proposé en cours, à la fois sur le côté technique et aussi peut-être sur ce que tu disais, sur le côté cohésion?
Alors, les stages, ils permettent, oui, surtout d'approfondir la technique, de découvrir un nouveau style de professeur, parce que chaque professeur a un style différent. Et puis, les stages sont ouverts à tout le monde. Donc, on a aussi des danseurs autres que notre association qui viennent. Et donc, effectivement, ça permet de faire de la cohésion, même avec les danseurs extérieurs, d'apprendre à se connaître entre danseurs autour d'Angers.
Découvrir donc d'autres styles de profs et peut-être aussi d'autres styles de danse?
Oui, alors pour l'instant, les professeurs qui sont venus pour les stages sont des professeurs de jazz et de contemporain, donc des styles qu'on connaît déjà. Mais ça reste différent de nos professeurs et ça permet de découvrir un autre univers. Et ça peut être un objectif un jour de faire venir un style différent de ce qu'on a l'habitude de faire.
Alors, au-delà des cours de danse qui sont proposés, il y a régulièrement aussi des ventes de produits locaux. Ce n'est pas forcément quelque chose auquel on pense en premier quand on pense association de danse. Pourquoi ce choix?
On a lancé effectivement des ventes de produits locaux. Ça permet notamment de financer certains projets de l'association. Et puis ça permet, on essaye de trouver des produits locaux qui peuvent intéresser les familles. Et puis ça permet aux familles du coup d'avoir des tarifs assez intéressants par rapport au commerce. Et donc ça les aide dans la vie de tous les jours, quoi.
Et donc, on retrouve quoi régulièrement comme produit qu'on peut venir chercher ici?
Alors, cette année, on a fait la vente de sirop Giffard, donc l'usine qui est basée à Angers. On a fait la vente de compote mille fruits. Et les années précédentes, on avait fait une vente des bocaux à papa.
Cette nécessité de diversifier les sources de revenus, ça peut aussi peut-être répondre à une difficulté que peuvent subir les associations culturelles dans un contexte où les subventions sont en baisse. Est-ce que c'est quelque chose qui a été réfléchi justement?
Oui, les subventions sont en baisse. Malgré ça, le coût d'une association ne baisse pas. Donc effectivement, il faut trouver des solutions. Et ça a été l'une des solutions choisies. Après, à voir si on va continuer ou non.
Parce que le but, c'est donc de financer des nouveaux stages pour essayer d'aller plus loin. Mais est-ce que même le fonctionnement quotidien classique, on va dire, de l'association est quelque chose qui peut être en danger quand on ne reçoit pas assez de financement? Comment est-ce qu'on essaye d'anticiper un peu tout ça?
Alors, ça peut être un risque si on ne reçoit pas assez de financement, et notamment si on n'a pas assez d'élèves, si des élèves partent. C'est toujours le risque chaque année, c'est la question qu'on se pose chaque année. Malgré ça, on a la chance d'avoir des élèves assez fidèles, des élèves qui restent, donc ça nous permet d'assurer quand même une sérénité au sein de l'association.
Et est-ce que ça, c'est un truc qu'on explique parfois, je pense plus pour les plus jeunes, aux parents, de cette nécessité aussi peut-être qu'une association ça fonctionne pas tout seul et qu'au-delà de cette question financière il y a aussi la question du bénévolat? Comment est-ce qu'on arrive à intéresser, à inclure dans le projet tous les acteurs et actrices de l'association?
Alors c'est très difficile de faire rentrer les parents dans le bénévolat pour l'association. Les parents nous sont utiles lors du spectacle parce qu'il faut encadrer les élèves et on a de la chance d'avoir des parents quand même assez présents pour encadrer les élèves, leurs enfants, donc là-dessus ils sont assez bénévoles. Après, on a aussi le sujet du bureau collégial de l'association dans lequel je fais partie. Là-dessus, il y a moins de gens qui veulent s'investir, mais on reste quand même ouvert et on leur rappelle assez souvent que effectivement l'association elle est gérée par des bénévoles, ce qui reste assez compliqué.
Et depuis cette année, vous organisez aussi des rencontres chorégraphiques avec d'autres associations du département. De quoi est-ce qu'il s'agit et qu'est-ce que vous proposez avec ces assos?
Oui, c'est le nouveau projet de cette année. Donc cette année, il a eu lieu au mois de janvier. Et le but de ce projet, c'est de regrouper toutes les associations qui veulent y participer, principalement autour d'Angers. Donc là, on a organisé tout le samedi des stages avec des professeurs locaux. de styles différents. Donc les élèves ont pu venir participer au stage. Et puis le dimanche, on a pu se retrouver toute la journée, donc le matin en répétition. Et l'après-midi, on a organisé du coup un spectacle au THV de Saint-Barthélemy d'Anjou. Et donc chaque association a pu ramener un groupe d'élèves pour présenter une chorégraphie sur scène. Et avec toutes les associations qu'on a pu recevoir, on a eu de la chance, ça a plutôt bien marché. On a pu créer un spectacle d'environ 1h30 avec plusieurs chorégraphies de plein de profs différents autour d'Angers. Donc ça a permis de voir un peu ce que les autres assos proposaient et de créer un peu de cohésion entre les associations.
Oui, le bénéfice finalement, c'est ça, c'est de prendre ce qu'il y a de meilleur dans chacune des assos, d'avoir vraiment ce côté collaboration interassociative et entraide.
C'est ça, c'est la collaboration, le plaisir de se retrouver tous ensemble, le plaisir de voir d'autres groupes sur scène, parce que ça, en tant que danseur, ça ne nous arrive pas souvent et c'était chouette de voir d'autres groupes sur scène. Donc c'était vraiment la cohésion et le partage entre toutes les associations.
Alors les cours, ils reprennent début septembre. Est-ce qu'il y a d'autres échéances à noter en dehors du spectacle du 6 juin dans les semaines qui viennent ?
Dans les semaines qui viennent, il y a les inscriptions qui vont arriver le 24 juin pour s'inscrire effectivement à nos cours de l'année prochaine.
Ben merci beaucoup, Elsa Pinon, d'avoir été avec nous. Donc on espère que si vous avez envie, n'hésitez pas à vous inscrire à l'association En Cadence. Je rappelle, donc le spectacle de fin d'année de l'asso, c'est sur le thème du tourbillon des émotions. Et c'est samedi, il y a deux représentations à 15h et à 20h. Et c'est au THV à Saint-Barthélemy d'Anjou. Bonne soirée.
Merci.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Le pédalo, c'est bientôt terminé, mais avant, on vous propose d'écouter un reportage réalisé dans le cadre de la série de la frappe La santé des sols. Notre collègue Marion nous fait découvrir l'atlas de la biodiversité intercommunale.
Onde durable.
La santé des sols.
Une série pour comprendre les enjeux autour de la sauvegarde, la sensibilisation et la renaturation des sols.
Et si vous participiez à recenser les plantes et les animaux que vous croisez près de chez vous ? C'est le principe de l'Atlas de la biodiversité intercommunale, lancé fin 2023 sur le territoire d'Angers-Loire Métropole. Un inventaire participatif de la faune et de la flore, coordonné par Florian Lavener. On le retrouve au bord de l'eau.
On est au lac de Maine, on est à côté d'une lagune, donc on est sur une zone humide. On peut retrouver des crapauds épineux, des grenouilles vertes. Là, on a juste en face un iris des marais. Vous avez des saules. Là, au niveau des oiseaux, je vous avoue que je ne suis pas très calé forcément aux oiseaux, mais on en entend. Et puis, l'objectif aussi, donc dans le cadre de l'Atlas de la biodiversité intercommunale, c'est pas grave forcément de ne pas connaître toutes les espèces, mais on peut faire de la reconnaissance via des outils qui facilitent cette reconnaissance. Donc le principe des sciences participatives, c'est on prend une donnée, on enregistre donc soit un son, soit une image, soit une vidéo. Et à partir de ce son, cette image, cette vidéo, en fait, on fait une identification d'une espèce, ou en tout cas on essaie de s'en rapprocher. Par exemple, pour les oiseaux, si on ne sait pas si c'est un héron garde-bœuf ou un héron cendré, donc des espèces aussi qu'on peut retrouver sur site, on peut juste préciser que ça fait partie de la famille des hérons et via des applications aussi comme iNaturalist. Donc on a des utilisateurs qui nous aident à l'identification progressivement. Et c'est pareil aussi sur les plateformes de Viginature. C'est interactif, on peut faire des commentaires, on peut affiner aussi les observations de chacun.
L'un de ces outils, c'est donc l'application iNaturalist, lancée depuis cette année dans l'agglomération angevine. Et c'est très simple.
Prendre une photo sur l'application. Je me rapproche donc de l'espèce, par exemple, à proximité. Ici, c'est une plante. Je la prends en photo. Je prends bien, du coup, la fleur. Hop. J'essaie d'en prendre autant que possible pour faciliter l'identification. Donc ici, je prends la plante en entière. Hop. Je prends les feuilles aussi en photo. Hop. Et ensuite, en fait, l'application elle me dit « Qu'avez-vous vu ?» Voir les suggestions. Donc, il y a une recherche d'espèces. Et là, on voit qu'on est sur le genre Silène. Donc, c'est un groupe d'espèces qu'on peut retrouver justement dans, communément dans le Maine-et-Loire et puis dans un pays de la Loire. L'Ichnis fleur du coucou. Hop. C'est visuellement ce qui est le plus similaire. Je sélectionne. Hop. Je vérifie bien la date, l'heure à laquelle mon observation elle a été faite. J'ai une localisation qui m'est proposée, donc il faut impérativement aussi activer le GPS parce que sinon on n'a pas le point d'observation. Tac, je vérifie bien que c'est bien centré. Je valide. À partir de là, je peux valider mon observation. J'attends qu'elle se téléverse sur la plateforme. ça prend un petit peu de temps. Mais une fois en fait qu'elle est téléversée, ben là je la mets dans une base de données open source à disposition d'autres observateurs, d'autres identificateurs qui utilisent aussi des clés de détermination pour déterminer l'espèce. Et là, si je retourne sur mon observation, donc j'ai une bulle de discussion où je peux voir ben, mon identification et je pourrais voir les identifications d'autres observateurs. Je prends un exemple, on avait fait il n'y a pas si longtemps du coup une nocturne sur les lépidoptères, donc sur les papillons de nuit notamment, et on a fait une observation par exemple d'une noctuelle de la patience. Ici, on l'a saisi et en fait, les autres utilisateurs, ils ont bien confirmé que c'était bien une noctuelle. Et ça permet du coup de valider la donnée, de lui attribuer un statut attribut recherche pour confirmer que c'est bien la bonne espèce. Et ça va après dans des bases de données internationales open source qui sont réutilisables et réutilisées du coup aussi en France pour des projets de recherche, pour l'observation aussi de présence-absence d'espèces sur certains sites ou plus globalement aussi sur le territoire français.
Il est aussi possible d'identifier des oiseaux rien qu'en enregistrant leur chant. Là, c'est un rouge-gorge qu'on entend perché dans un arbre voisin. En plus de cette application généraliste, il y a aussi des protocoles plus spécifiques sur la plateforme VigiNature, comme par exemple Spipol pour observer les pollinisateurs, BirdLab pour les oiseaux ou encore Sauvage de ma rue pour les plantes sauvages en ville. Il y a même un programme appelé Cubes dédié à la qualité biologique des sols avec plusieurs protocoles.
Donc opération escargot, donc c'est un type de protocole qu'on peut totalement réaliser chez soi quand on a un jardin ou bien si on a aussi un espace vert en bas d'immeuble. On prend une planche ou une coupelle en argile qu'on pose, on attend du coup plusieurs semaines, donc environ un mois, et on essaie de faire des relevés, on soulève la planche à chaque fois pour regarder s'il n'y a pas des escargots qui se sont logés du coup sous la planche ou sous la coupelle. Il y a toute une petite grille aussi d'identification en tout cas qui est proposée pour aider à identifier les coquilles d'escargots. Mais on ne trouve pas que des escargots sous ces planches, on trouve aussi des araignées, on trouve des cloportes, on trouve d'autres coléoptères aussi potentiellement, des insectes xylophages donc qui mangent du bois et qui s'abritent dedans. Donc c'est le type en gros de protocole un peu ludique et intéressant qu'on peut proposer à la maison mais qu'on propose aussi à certaines écoles. Et on en a un autre qui s'appelle Noctambule. Donc là, on s'intéresse plutôt aux insectes qui sont actifs bah, la nuit. On essaie de faire un espèce de petit piège à faune. Donc on prend un gobelet qu'on enterre à niveau. L'objectif, c'est que les insectes, donc tous les coléoptères, les araignées, les vers de terre aussi potentiellement, en fait, tombent dedans. Et on va mettre une espèce de petit chapiteau alors en carton, ou en tout cas en matériaux recyclés, pour éviter que l'eau ne s'infiltre dedans, donc pour pas que ce soit un piège mortel pour les espèces. Et là, on peut faire des relevés du coup par nuit, dans la semaine, pour regarder qu'est-ce qui est tombé dedans. Et pareil, on utilise la grille d'identification de VigiNature pour savoir quel type, en tout cas, d'insecte est tombé dans notre gobelet. Et pareil, on peut le faire si, quand on a un jardin, un espace, en tout cas, même en jardin partagé, jardin familial, c'est le genre de protocole qu'on peut mettre en place.
Les données collectées permettront de mieux connaître la biodiversité des sols.
C'est des données qu'on va transmettre du coup à l'échelle nationale et après on aura des bilans de la richesse des espèces qui sont trouvées à certains endroits. Et ça permet aussi de donner des gradients de la qualité biologique des sols. Plus on a d'espèces et une variété d'espèces importantes, plus les sols du coup sont d'une bonne qualité, ils sont aérés. Il y a aussi un intérêt aussi de production d'une certaine façon quand on pense aussi aux jardins familiaux et jardins partagés. Donc ça permet aussi de montrer une certaine forme de qualité écologique et biologique des sols. Et avec ces bilans, ça permet de faire cette analyse-là sur un point donné. C'est des choses qu'on a montrées aussi avec des protocoles comme Sauvage de ma rue, si je retourne sur la botanique, où on a pu montrer justement les gradients de variété d'espèces quand on est du coup en milieu urbain ou en milieu périphérique ou en milieu rural. Et en fait, tout ça, ça permet de donner un état des lieux, un portrait en tout cas du territoire à un moment T.
Il y a 2 ans et demi, l'Atlas de la biodiversité intercommunale recense plus de 15 000 observations faites par des habitantes et habitants du territoire. Elles ont permis d'identifier plus de 800 espèces, dont la vipère aspic, une espèce protégée aperçue dans les landes sèches de la commune d'Avrier. Rien que pour la flore, la démarche a permis d'identifier 35 nouvelles espèces de plantes par commune en moyenne. Pour Florian Lavener, elle présente un double intérêt.
Un des premiers volets, c'est vraiment la question en tout cas de la participation citoyenne et de l'acculturation. Donc d'avoir un petit peu plus de connaissances sur ce qui nous entoure. Il y a un côté retour un peu à la nature, mais on touche aussi des gens qui sont déjà sensibilisés, qui ont déjà une sensibilité. Donc aussi, ça permet d'affiner en tout cas les connaissances de chacun. À côté, il y a cet enjeu vraiment scientifique d'accumulation et de gestion de données, en tout cas naturalistes, sur le territoire. Donc ça se fait au niveau des associations, de structures aussi comme le Conservatoire d'espaces naturels des Pays de la Loire, par exemple. Et ça se fait à l'échelle nationale, bah, ça peut se faire aussi à l'échelle locale pour connaître notre patrimoine, pour savoir quelles sont les espèces qui sont présentes et quelles sont les espèces à enjeu. On peut en trouver des espèces à enjeu en faisant des sciences participatives, notamment avec Innaturalis, on a pu trouver aussi des espèces comme l'agrillon de mercure sur certaines zones humides, par exemple. Donc y a un intérêt à la fois de curiosité, d'apprentissage, et puis il y a cette question du l'habitant aussi peut aider à l'acquisition de données et d'informations, ce qui peut nous amener à avoir des clés de compréhension et puis des outils clés en main par la suite pour agir concrètement sur la biodiversité.
Angers-Loire Métropole pourra ainsi se baser sur ces données pour prendre des mesures afin de préserver cette biodiversité.
Donc on peut avoir de la restauration d'habitat, si on a par exemple de la fermeture au niveau de certaines zones humides, de mares qui sont en train de se refermer progressivement, donc on peut les réouvrir par exemple. On peut aussi réouvrir des landes, on peut avoir de la plantation aussi, de l'amélioration au niveau aussi de la gestion différenciée au niveau des communes, ça peut être le cas quand ça fait partie du patrimoine en tout cas de la commune. C'est des choses qui peuvent être proposées plus largement. Il y a de la sensibilisation surtout, quand c'est des espèces en tout cas qui sont à des endroits où il y a un fort enjeu. Là on est au lac de Maine, typiquement si on a des espèces qui peuvent être trouvées, on peut mettre des panneaux de sensibilisation pour dire on a trouvé telle ou telle espèce à ces endroits-là, en tout cas du site, et de peut-être aussi amener le regard en tout cas de l'habitant là-dessus. Et vraiment en enjeu de conservation, quand on a des espèces patrimoniales, par exemple, un des enjeux, ça peut être les espèces exotiques envahissantes, notamment pour la flore locale et la flore patrimoniale. Donc ça peut être de faire de l'arrachage, en tout cas de la gestion, en tout cas pour essayer de limiter la progression des espèces exotiques envahissantes à certains endroits ou pour maintenir en tout cas cette patrimonialité et cette exception-là sur certains sites.
Si vous voulez participer à cet inventaire de la faune et de la flore de l'agglomération angevine, vous avez jusqu'à fin 2026 pour saisir vos observations. Elles sont centralisées espèce par espèce sur une carte visible sur le site internet d'Angers-Loire Métropole.
Vous venez d'écouter La santé des sols.
Une collection de reportages produite par la CorLab, coordination des radios locales et associatives de Bretagne,
et la FRAP, Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
En partenariat avec l'AFES, l'Association française pour l'étude du sol, dans le cadre du projet Ondes Durables.
Ces reportages sont à retrouver en ligne sur ondes-durables.fr.
Ondes Durables est un projet soutenu par l'État
dans le cadre de France 2030 et du dispositif Soutenir les alternatives vertes 2,
opéré par la Banque des Territoires, Caisse des dépôts.
Un reportage de Marion Bastide de Radio Campus Angers. Le pédalo termine sa traversée sur les ondes de campus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à Mathias et Marion à la technique. La programmation continue sur le 103 FM. Alors restez bien avec nous et n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.